Roselyne Bachelot. Nathalie Debroc. Bonjour Roselyne Bachelot.
Bonjour Nathalie.
C'est vraiment un très très grand plaisir de vous avoir pour inviter à France Bleu Brésisel. Sauf que c'est nous qui sommes invités chez vous, hein, avec mon technicien Eric Damaggio. Donc vous ne connaissez absolument pas le principe de l'émission.
Absolument
pas. Je
vais
vous faire...
En route pour de nouvelles aventures.
Voilà, c'est pas traquenard, je vous promets. Alors, de Bric et de Broc, l'idée c'est bien sûr de parler un petit peu de l'actualité de l'invité. Vous, vous en avez quand même beaucoup. Entre l'émission sur Direct 8, ou alors vos Twitter il n'y a pas si longtemps, puisqu'on sait qu'il va y avoir la manifestation contre le mariage pour tous, demain dimanche. Et vous avez une opinion là-dessus, hein,
c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai plus qu'une opinion, j'ai un militantisme.
Voilà. Et puis votre amour aussi pour l'opéra, donc il y a plein de choses à dire. Et en fait, ce qui nous intéresse, nous, de Bric et de Broc, c'est de parler de vous. Voilà.
Quel sujet passionnant, intéressant.
Et mais vous, je dirais, au-delà du personnage public, au-delà des apparences, le vrai vous, quoi. Sans aller au-delà d'une certaine limite, hein, parce que là, mon ticket sera pas valable, on est bien d'accord. Alors, vous avez changé totalement de vie. Quand on fait un tournant pareil à 180 degrés, de passer de ministre à journaliste, bien que vous soyez fille de journaliste, hein, je crois.
Absolument.
Comment on gère le tournant ?
On gère le tournant parfois avec difficulté pour certains. Je l'ai vu tout au long de ma vie, des collègues battus à la députation, quittant leur ministère, presque dans la, je vais pas dire le désespoir, mais un très grand désordre psychologique. J'ai eu la chance de m'être préparée à cette échéance, de l'avoir préparée dans ma tête, de l'avoir préparée dans mon mode de vie. Par exemple, l'appartement dans lequel nous enregistrons, je ne l'ai pas quitté. C'est mon appartement où je rentrais tous les soirs quand j'étais ministre. Il y a le petit épicier au bas de chez moi, je rentrais acheter mes raviolis... ou mon fromage, loin des palais de la République. Donc quand j'ai quitté cette vie, ben, j'ai continué une vie normale, entre guillemets. Et puis j'ai toujours voulu avoir, aux côtés de cette vie ministérielle très prenante, des moments pour ma famille, des moments pour la musique, des moments pour la lecture. J'ai toujours essayé de ne pas être monomaniaque. Et finalement, en y repensant, je me dis que ces moments... que je me suis consacrée m'ont permis aussi de mieux exercer ma fonction. Donc il n'y a pas eu de désordre. Le lendemain de mon départ, je reprenais le métro.
Même pas un petit pincement au cœur de quitter un monde parce que finalement, il y a un côté aussi un petit peu grisant dans ce monde-là.
Bien sûr qu'il y a un côté grisant. Les palais de la République,
ben oui,
aller au Conseil des ministres, à monter les marches de l'Élysée tous les mercredis, avoir un certain nombre de manifestations officielles qui sont tout à fait grisantes, vous avez employé l'expression, excitantes, aller à la séance des questions... J'adorais ça, répondre aux questions des parlementaires.
Alors
dans
justement...
ces jeux de joute oratoire. Oui, mais j'ai eu le sentiment aussi d'arriver à un moment où j'avais accompli ma tâche, où finalement le but n'était pas de créer, mais de durer. Et ça, ça n'a pas d'intérêt dans la vie. Il faut faire des choses nouvelles, il faut vivre autrement et justement ne pas s'incruster dans des fonctions.
Il vaut mieux
fonctions.
Partir au sommet.
Oui, ma mère disait « il faut quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent ». Et mon père répétait toujours la phrase de Clémenceau, que j'adore. « La politique, c'est comme un hamac, on a beaucoup de mal à monter dedans. Quand on est dedans, on est ballotté de droite à gauche et en général, on se casse la figure en sortant ». Et il m'avait dit « attention ». De ne pas te casser de la figure en partant de la carrière politique. Et aussi, autre chose qu'il m'avait appris, c'est quand je suis rentré dans son bureau à l'Assemblée nationale, puisque j'ai succédé à mon père dans ce bureau.
C'est quelque chose, ça, symboliquement.
Ah, symboliquement, c'est très fort. Très, très fort.
Quand vous êtes rentré la première fois, il y a eu quelque chose, une émotion ou pas plus que ça ?
Ah oui. Alors, donc, papa m'avait dit... à cesse de l'adieu, pas un objet personnel, pas un bibelot, pas une photo.
Tu dois ne pas s'incruster.
Tu dois quitter ton bureau tous les soirs comme si tu ne devais pas y revenir le lendemain. Mais ça, je l'ai fait, oui, ma première Assemblée nationale, je l'ai fait avec papa. Je me souviens de ma rentrée dans l'hémicycle. J'ai eu presque un sentiment des visions paranormales. J'ai vu Jaurès à la tribune. J'ai vu le général de Gaulle assis seul au banc des ministres quand il revient au pouvoir en 1958. J'ai vu les drapeaux nazis, dont les Allemands qui avaient réquisitionné l'Assemblée nationale pour en faire un tribunal, les drapeaux nazis dans l'Assemblée. Et je me suis dit, moi, petite fille du Maine-et-Loire, je suis là. Et quand on rentre dans ce qui s'appelle le salon de la Porte du Bronze, où Mirabeau est face au marquis de Drebrézé, et il lui dit, nous sommes ici par la volonté du peuple, nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Moi, j'avais la gorge serrée en voyant cela.
Mais il n'y a pas un moment où ça peut nous dépasser, où justement la grosse tête arrive? Il n'y a pas un moment où on peut se prendre au sérieux?
Peut-être, cela doit arriver à certains.
Vous avez l'impression que ça joue,
j'ai l'impression que j'ai échappé à cela. J'ai la chance d'être née dans une famille où on cultive la dérision. J'ai aussi la chance extraordinaire d'avoir été élevée dans une famille par deux héros. Et j'ai toujours eu le sentiment que toute ma vie, j'essaierais d'être, non pas à leur hauteur, c'est impossible, mais au moins d'essayer de leur ressembler.
Ça remet les pendules à l'heure constamment.
Ça risquait pas de me prendre la tête et ça remet les pendules à l'heure, oui, assez vite. Vous savez, ma mère résistante, avec sa mère à elle, ma grand-mère résistante, elles étaient à Paris au moment de la libération, elles devaient retourner en Bretagne. Évidemment, plus de moyens de transport. Et ma mère et ma grand-mère se sont dit, mais il n'y a pas de problème, on rentre à pied. Elles se sont achetées un jambon qu'elles ont porté sur leur épaule et elles sont rentrées à pied de Paris jusqu'à la pointe de la Bretagne. Et quelquefois, quand il y a une difficulté qui m'assaille, je me dis, il n'y a pas de problème, je rentre à pied.
France Bleu, France Bleu.
France Bleu, les plus belles chansons françaises.
France Bleu, Brésil-Zelle.
Serré si fort en disant Jim.
Bachelot est avec nous sur France Bleu Brésil pour De Bric et Broc. On était en train d'évoquer une généalogie qui est assez extraordinaire, effectivement, pour être à la hauteur. Est-ce que c'est ça aussi ce qui vous sert pour vous sentir tellement libre ?
Oui, parce que j'ai une famille évidemment exceptionnelle, mais qui n'est pas du tout une famille bourgeoise. Ma grand-mère paternelle était agricultrice, mais en même temps militante contre la peine de mort, ce qui, dans son milieu, est tout à fait extraordinaire. Et quant à ma grand-mère maternelle, elle ne savait ni lire ni écrire. Elle avait été chef syndicaliste dans son usine d'armement. Donc, je me suis toujours sentie, finalement, n'appartenant pas à une caste, même si j'ai eu de la chance de suivre de bonnes études et d'être élevée dans une famille où on ne manquait de rien. Je ne vais pas jouer les Cosettes. Mais j'ai toujours eu le sentiment d'être une marginale, d'être une déclassée, de ne pas avoir les références d'un milieu. Ma grand-mère était bretonne, elle parlait breton, c'était sa langue.
Vous
c'était sa langue maternelle, pas du tout. Je peux dire qu'énavo ou quelques mots comme ça, mais je ne parle pas breton. Ma grand-mère parlait breton, elle s'est toujours exprimée en français comme dans une langue étrangère. On voyait qu'elle avait du mal à parler le français qu'elle avait appris tard. Donc oui, cela m'a donné beaucoup de liberté.
Vous pouvez dire les choses, finalement.
Je peux dire les choses. Et justement, comme ma mère se sentait elle-même une déclassée, elle lisait beaucoup, elle était extraordinairement cultivée. Elle a toujours considéré la culture, l'éducation, les livres comme la suprême richesse, non pas l'argent. Ça l'intéressait pas. Elle disait toujours, la plus belle dot que je puisse donner à mes filles, c'est un diplôme.
Ça, c'était très novateur.
Oui, c'était très novateur. Maman, dans ma classe, était la seule femme qui travaillait. Elle était chirurgien-dentiste, elle n'a jamais voulu abandonner son travail. On était une classe de 40, 42 même à l'époque. La surpopulation scolaire, on se posait moins de questions que maintenant. T'es 42, ma mère était la seule qui exerçait une activité professionnelle.
Est-ce que vous avez eu la sensation, en quittant le ministère de la Santé et en étant maintenant journaliste, d'avoir une liberté de ton encore plus ?
Alors, j'ai toujours eu une liberté de ton dans mes fonctions. Et d'ailleurs, je remercie l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy et François Fillon, de ne m'avoir jamais demandé de renoncer à des choses auxquelles je tenais, même si l'arbitrage était obtenu contre moi. Je pense au sujet que vous évoquiez au début de notre propos, par exemple sur le mariage homosexuel, qu'à mon grand regret, Nicolas Sarkozy n'a pas voulu mettre en route, mais on ne m'a pas dit « renonce, dis le contraire de ce que tu
vous
penses ».
Vous n'avez jamais été bridé à ce
alors,
moment-là.
Quand on exerce les plus hautes fonctions de l'État, il y a des secrets d'État qu'on ne met pas sur la place publique. Ça relève du fonctionnement d'une machine gouvernementale, de la même façon qu'un chef d'entreprise ne révèle pas ses secrets de fabrication ou la façon dont fonctionne son entreprise. Mais je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir à me restreindre ou de cacher quelque chose de substantiel au fonctionnement de la démocratie.
Mais vous n'aviez pas une liberté exceptionnelle par rapport à d'autres ? Une liberté de parole, en tous les cas ? Votre personnalité fait que...
Certainement, certainement. D'ailleurs, quand je suis arrivée en responsabilité auprès de Nicolas Sarkozy, vous savez, il y a deux façons d'arriver en politique à un
c'était
poste aussi
important. C'était aussi votre
personnage
voilà. qui est venu chercher.
C'est
hein,
exactement
on est bien
ça.
D'accord.
Il y a ceux qui a, voilà, il y a ceux qui arrivent
avec vous, hein. Oui.
Parce que ils viennent de la société civile, ils sont en début de carrière, on les prend pour telle ou telle compétence, on les prend pour telle ou telle représentation, une femme. Pour équilibrer le rapport homme-femme ou pour équilibrer les origines sociales ou les origines ethniques. Moi, j'étais une personnalité politique qui avait un certain style.
Je dirais presque que vous êtes le poil à gratter là-dedans. Vous
voilà.
Avez été ça.
Et si Nicolas Sarkozy et François Fillon ont fait appel à moi, si j'ose dire, je ne les ai pas trompés sur la marchandise. Et d'ailleurs, ils ne m'ont pas demandé de changer. Je pense qu'ils étaient même assez contents que je ne change pas.
Alors là, maintenant, vous vous lâchez encore plus, non, finalement ?
Je suis quelqu'un de très contrôlé. Je n'ai pas le sentiment...
C'est vrai, très contrôlé quand
même.
Je
suis quelqu'un d'extrêmement contrôlé. Je suis un être totalement secondaire. Et je ne me lâche pas. Je dis des choses qui sont réfléchies et que j'ai toujours eu l'intention de dire...
Est-ce que vous arrivez donc à gérer peut-être votre spontanéité, ou c'est pas de cet ordre-là ?
Je n'ai pas le sentiment de spontanéité. Je ne suis pas du tout quelqu'un de spontané.
C'est drôle parce que c'est l'image que vous donnez. Vous le savez, je suppose.
Oui, eh bien, comme je dis des choses fortes, comme je dis des choses marginales parfois, je parlerai au gré du vent ou de mes pulsions. Pas du tout. Tous les choix que j'ai faits sont des choix qui sont construits par une réflexion intellectuelle, des études, des recherches. Je revendique d'être une pure intellectuelle. Mes engagements vis-à-vis du mariage homosexuel, de la parité homme-femme, de la lutte contre toutes les discriminations, en particulier à l'encontre des personnes handicapées, c'est pas quelque chose dont je me suis dit « Oh tiens, c'est moderne. Oh tiens, ça va plaire. Oh tiens, c'est à la mode. » Ce sont des sujets que j'ai portés comme ma mère et mes grands-mères, comme ma grand-mère militante pour l'abolition de la peine de mort, le portait à un moment où c'était totalement rejeté par la société. Il y a 25 ans que je me bats contre les discriminations qui sont portées contre les homosexuels. C'est pas quelque chose de moderne. Vous savez, je regarde avec un peu d'amusement des amis qui me disent « Ah, tu as rejoint les socialistes ». Mais je leur dis non, ce sont les socialistes qui m'ont rejoint. Moi, il n'y avait pas de socialistes avec moi quand j'ai commencé à me battre sur ces dossiers. Quand, avec ma grande amie Gisèle Halimi, on a commencé à se battre sur la parité et sur un certain nombre de modalités de la parité qui maintenant font partie, j'allais dire, du patrimoine collectif, mais là aussi, personne ne nous écoutait.
Nous sommes tous un peu trop fragiles à regarder tomber la nuit sur le vert de gris de nos villes, avec nos amours sous la pluie, dans cette grisaille silencieuse où les regards de nos déesses deviennent des ombres orageuses et chargées d'étranges tristesses. Hey, magnifiquement belles. Hey,
magnifiquement, elles ont cette folie si tranquille, ce calme étrange au bord du stress, qu'on nous traînons sur nos béquilles, à leur mondier de la tendresse.
Elles sont si brillantes et si vraies, dans le chaud velours de leur nid, pour nous piètre mon feu distrait, qui nous prenons pour des génies. Elles, magnifiquement belles. Elles, magnifiquement belles. Elles, magnifiquement. L'enfant, comme autant des cours de récré, quand on attend l'heure des mamans au bout de nos cœurs estropiés.
Elles ont le monde entre leurs seins et nous sommes des oiseaux perdus,
des ptérodactyles en déclin avec des sentiments tordus. Elles,
magnifiquement belles. Elles,
magnifiquement belles. Elles, magnifiquement. Un peu trop fragile à regarder tomber la nuit sur le vert de gris de nos villes, avec nos amours sous la pluie.
Retour avec Roselyne Bachelot, qui est notre invitée sur France Bleu Brésil pour De Briques et de Brocs. Alors, on était parti sur cette notion d'engagement et de réflexion. Finalement, vous avez tout à fait une conscience, puisqu'il faut mettre des clichés de gauche, et vous êtes engagée à droite. Tous les éléments dont vous parlez, que ça soit le mariage homosexuel, la parité, etc., ce sont des valeurs dites de gauche.
Je réfute. C'est une approche absurde. Regardez par exemple le mariage ouvert aux homosexuels. C'est typiquement une valeur de droite. Typiquement. Parce que finalement, la gauche, revendiquant des valeurs libertaires et parfois même anarchistes, devrait combattre le mariage pour tous, pour les hétéros comme pour les homosexuels.
La notion de mariage elle-même.
Voilà. Okay. Alors que d'ouvrir le mariage, c'est-à-dire de penser que le lien d'amour entre deux êtres puisse être organisé d'une manière sociale et juridique, est une volonté d'organiser la société, de la structurer. Et cela, c'est profondément une valeur de droite. Regardez, il y a une notion qui m'a toujours amusée, parce que nous sommes dans notre famille des militants depuis un siècle du revenu minimum. Mon père avait toujours défendu cette idée quand il était député de droite. Quand la gauche est arrivée au pouvoir, il s'est adressé au ministre des Affaires sociales en lui montant à la tribune pour vendre, si j'ose dire, son revenu minimum. Et la ministre lui avait répondu « Monsieur le député, ce ne sera pas utile puisqu'avec la gauche, il n'y aura plus de pauvres. » Intéressant, au passage. Et c'est finalement quand la gauche fait son virage social-démocrate avec Michel Rocard, qu'elle vient au revenu minimum. Le revenu minimum, c'est pas une idée de gauche. L'idée de gauche, c'est de dire, sur une réflexion marxiste, les évolutions que nous proposons de la société vont combattre la pauvreté. L'idée de droite, c'est de se dire, oui, il y aura un volant, c'est affreux à dire, hein, irrépressible, incompressible de pauvreté, et cette pauvreté, pour que la société productiviste, la société capitaliste marche, il faut régler cette question-là par un revenu minimum. Donc, je suis frappée par le fait que, bien souvent, l'histoire des idées n'est pas connue. Il y a des a priori, parce qu'une famille, au gré, j'allais dire, des intérêts électoraux préemptent telle ou telle valeur.
Mais tout de même, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous cautionnez les prises de position de l'UMP par rapport au mariage pour tous?
Moi, je n'apporte pas de caution à qui que ce soit. Je dis que je ne les partage pas, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Non seulement je ne partage pas, mais j'ai une vraie déception. Parce que par rapport au pacte civil de solidarité et par rapport au débat qui avait eu lieu, où j'avais été seul à porter ce dossier que je portais depuis très longtemps, bien avant que la gauche s'en saisisse, je le redis. Je me souviens, après cela, après ce débat, après cette inflammation, Nicolas Sarkozy lui-même avait reconnu « nous nous sommes trompés et il ne faudra pas que nous fassions les mêmes erreurs ». Et là, j'avais le sentiment que, voilà, les choses seraient beaucoup plus partagées.
Les gens ont la mémoire courte, non, vous croyez?
Les gens, oui, sans doute, ont la mémoire courte, oui.
Et ça, c'est difficile en ce moment de vivre. Parce que vous avez tweeté il n'y a pas très longtemps un magnifique youpi, là, pour la loi est passée.
C'est-à-dire que tout ça, finalement, est aisément explicable. J'ai une famille politique avec l'UMP qui s'est construite. Je fais partie des membres fondateurs de l'UMP, je ne renie rien de ce que j'ai fait, mais qui a été construite juste avant la campagne électorale de Jacques Chirac en 2002. Et la double victoire de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy nous a empêchés de réfléchir aux fondamentaux d'une famille politique. L'UMP a été construite de briques et de brocs.
Ah bah, vous me le reprenez, celui-là.
Ah bah, je pouvais pas vous y faire échapper. À partir de familles qui avaient des valeurs conciliables, mais qui n'étaient pas identiques. Entre les centristes très européens, le RPR, les gaullistes beaucoup plus réservés, beaucoup plus nationalistes, sur les alliances atlantiques, sur l'organisation de la société. Il y avait des tas de choses qui n'ont pas été réglées à ce moment-là. Et comme ma famille politique n'a pas réglé ces questions de fond, elle est en quelque sorte, elle s'est saisie de l'opposition au mariage comme une sorte de ciment. Et puis, il y a certains qui disent, quand on est dans l'opposition, on s'oppose, qui est la phrase la plus détestable et la plus critiquable qui soit. Alors, bien sûr, quand on est d'une famille politique, il faut être d'accord, disons, avec 70 à 80% de
ce que c'est facile.
Ah oui, parce que sur les sujets fondamentaux, dont hélas on ne parle pas, c'est-à-dire les sujets économiques et sociaux, je suis alors à fond derrière ma famille politique. Je ne partage aucun des choix qui ont été faits par François Hollande dans ce domaine. Alors, il y a les questions sociétales avec lesquelles je suis pas d'accord avec les socialistes. C'est des combats que j'ai portés avant eux. Je ne vais pas me donner le ridicule, par exemple, sur le mariage homosexuel, à un moment où personne n'en parlait et où je faisais partie de la poignée de militants qui militaient pour cela. Je vais pas dire, ah bah tiens, c'est la gauche qui le fait, je vais être contre. Mais quel individu je serais? Je serais un individu dépourvu de pensée et de cohérence. Hein.
Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spare. Got to get back to my baby. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, got a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. She wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, got a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter.
Nous sommes dans les années 30 à Munich. Casimir et Caroline se rendent à la fête de la bière. Ils s'aiment sur fond de crise économique. Le metteur en scène Bernard Loti s'empare de cette intrigue théâtrale écrite par le Hongrois Eugen von Horváth et la met en scène avec des acteurs amateurs et professionnels. Un grand moment de théâtre à vivre dans le cadre du festival Les Humanités. Rendez-vous à Brest, à la Maison du Théâtre, du 28 mai au 1er juin. Et gagnez vos places avec France Bleu Brésil.
C'est quoi ces petits papiers, Nathalie?
Je vous fais peur? Non. Ayez confiance.
Oui, ayez confiance, c'est le serpent K avec Mowgli.
Non, je vous promets que non.
Ayez confiance.
Alors, ces petits papiers, puisque Roselyne Bachelot est notre invitée dans De Bric et de Broc, c'est une séquence tout à fait particulière. Ce sont des questions derrière lesquelles je vais me retrancher, comme ça que je n'ai pas toujours tous les courages. Les questions sont là, je vous demande de tirer au sort et puis de répondre. Mais bon, elles ne sont pas très compromettantes non plus.
Comment apprend-on la langue de bois?
Mais il doit y avoir une technique, non? Parce qu'il y a des fois des spécimens
qui sont
impressionnants.
Moi, je dirais plutôt pourquoi apprend-on la langue de bois? Parce que finalement, la langue de bois, on la pratique dès qu'on est tout petit. C'est toi, Roselyne, qui a puisé dans la boîte de chocolat? Oh non, maman, c'est pas moi, ça c'est de la langue de bois. Hein, d'accord.
Non, ça c'est de l'échappatoire.
La langue de bois, c'est de se protéger. Alors, on apprend la langue de bois d'abord parce qu'on a peur.
Et en politique, on peut avoir peur.
On peut avoir peur, peur de déplaire, peur de faire une gaffe, parce que la parole, elle engage le gouvernement, elle engage la France.
Et à quel moment la peur, elle se transforme en malhonnêteté?
Regardez. Ce qui m'est arrivé pour l'appareil auditif de Jacques Chirac. Jean-Michel Apathy, un matin, sur votre confrère de RTL, me demande est-ce que Jacques Chirac porte un appareil auditif ? Il m'a semblé, à moi, que ce n'était pas un sujet qui justifiait de cacher les choses. Et j'ai fait cette phrase qui a souvent été répétée. Il me semble que oui, j'en ai pas fait des kilos, mais chacun avait pu voir ce qu'on appelle la sonotone, pour parler à la vieille mode, dans l'oreille du chef de l'État. Paris Match a même ressorti des photos où on le voyait de façon tout à fait claire. Ensuite, je me suis dit, mais à ce moment-là, quand je vois sur un sujet aussi bête, aussi banal, des gens portent des lunettes, un sonotone, un appareil dentaire, un pacemaker, une hanche en titane, enfin bon, très bien, ça ne vous déqualifie pas pour être président de la République. Quand j'ai vu le foin qu'il y a eu sur cette histoire-là...
On ne mesure pas à l'avance.
Je me suis dit, mais j'aurais dû botter en touche. J'aurais dû dire, bah oui, j'ai rien vu. Ça me paraissait tellement idiot.
Vous estimez que vous l'avez employé à plusieurs reprises, la langue de bois, ou pas tant que ça?
Non, j'ai pas le sentiment d'avoir utilisé la langue de bois. D'abord, je détestais dire ces fameux EDL, les éléments de langage donnés par les communicants de l'Élysée ou de Matignon qui vous préparent des fiches et qui donnent, vous savez, cette espèce d'impression que les ministres répètent tous le même discusé avec les mêmes mots, les mêmes phrases. Je crois pas qu'on ait pu me prendre sur ce défaut-là.
Par rapport à l'épisode qui a été peut-être traumatisant pour vous, je ne sais pas, des vaccins de la grippe A.
Ah, mais c'est un des éléments de ma carrière dont je suis le plus fier. Alors, je vais certainement pas le renier. Ah non, pas du tout. Ça, alors là.
Et oui. Est-ce que ça a été difficile d'entendre les critiques ?
Vous savez, ça fait partie du paquet. C'est d'ailleurs pour cela que quand je suis invité sur ce sujet-là, sur un débat, j'y vais. Parce que je sais de toute façon que je vais convaincre mes contradicteurs. Et je leur explique que j'ai pris la meilleure décision possible. Et à la fin de la discussion, ils en conviennent. Comme d'ailleurs en a convenu les deux commissions d'enquête parlementaires qui ont convenu que le montant des commandes qui avaient été passées avec l'aval du président de la République, du Premier ministre... des négociations interministérielles, sous le contrôle de la communauté scientifique, avaient été les bonnes décisions et celles qu'il convenait de prendre.
Vous avez le dos costaud pour les critiques.
Bon, on préfère recevoir des compliments plutôt que des critiques. Mais enfin, si vous voulez plus de critiques, vous rentrez chez vous, faites des mots croisés, mon appartement m'attend, il n'y a pas de problème. Hein, je retrouverai mes CD d'opéra, mes innombrables livres, ma famille et mes amis.
Alors, une autre question.
Ce qui vous fait fuir, toutes les intolérances, les discriminations, le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, le machisme...
Est-ce que vous avez la sensation qu'on est de plus en plus là-dedans ? Est-ce que ça monte pas un peu plus ?
L'Europe, c'est vrai, traverse une crise identitaire très forte... parce que elle vit ce qui se passe comme une menace, et nous avons bien raison de le vivre comme une menace. Nous avons bénéficié d'une sorte nous avons vécu dans un monde totalement protégé, et nous recevons les grands vents de la mondialisation en pleine face. Et la tentation du repli sur soi, elle est évidemment majeure. Le sentiment que tout aurait été mieux comme avant. D'ailleurs, certains militantismes contre le mariage ouvert aux homosexuels reflètent ça. Je dis quelquefois à certains, mais qu'est-ce que ça va vous retirer ? Rien. Et aussi, de la même façon, vous vantez un modèle de mariage comme venu du fond des âges et des siècles. Mais c'était quoi le mariage qui nous a été légué ? Le lieu d'oppression des femmes et des enfants ? Une fantastique machine à détruire ? Le présenter comme l'alpha et l'oméga de la civilisation et j'allais dire de l'humanité est une absurdité totale. C'est une construction d'abord économique, par l'oppression des plus faibles, faire tourner au profit de quelques-uns cette machine économique. Et c'est ça le modèle qu'on veut nous vendre, cet ancien modèle qu'on veut nous vendre. Mais on voit bien que derrière tout ça, il y a le sentiment pour certains qu'il y a des choses qui partent en lambeaux. Oui, ce qui me fait fuir, c'est l'intolérance.
Le Brésil.
l'ora scade per l'amour, il libre è più bovur, sur toi je pleure sans cesse, et désormais sans pouvoir, hélas, il me fallait voir dans ces amours sans espoir, dans ces amours sans espoir, se perdre ainsi ta jeunesse, va de ton cœur généreux. L'erreur ne fut point un crime, mais puis un bonheur tout est, car l'amour n'est de l'estime, est le seul qui rend heureux, est le seul qui rend heureux, car cet amour est le seul.
Roselyne Bachelot est avec nous sur France Bleu Brésil. On est dans la séance des petits papiers, puis comme il en reste quelques-uns, et ben je vais vous demander d'aller le plus vite possible. Ah oui, 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 c'est ça le plus simple.
L'opinion des autres. L'opinion des autres m'importe beaucoup, mais je n'en suis pas esclave. Quand j'étais ministre, j'ai demandé à mes collaborateurs de me dire la vérité.
Sur quoi, par exemple ?
Sur tout.
De ne pas vous ménager ?
De ne pas me ménager. Et j'accepte très très bien les critiques, à condition qu'elles ne soient pas des attaques personnelles, enfin, bêtes.
Constructives pour faire avancer, c'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est-à-dire tu aurais dû faire cela comme ça. Là, je suis dans une équipe sur le Grand 8, avec quatre autres co-animatrices, on est dans une équipe de rédaction, etc. On débrief après chaque
émission. C'est facile
émission,
d'entendre parfois les choses.
Et ben bien sûr, qu'on se dit, t'aurais dû faire ci, faire ça. Dans l'oreillette, le producteur de l'émission me dit, oh là là, j'entends des espèces de hurlements. Je
vous
considère
avez le
pas ça comme une agression.
Vous avez le trac à chaque émission ou pas?
J'ose pas dire que je l'ai pas du tout.
Je ne dirai rien là-dessus. Oui,
vous
c'est pour
connaissez
ça que
la fameuse.
Je ne dis rien du tout. La
fameuse phrase,
phrase de
Sarah Bernard. Oui, c'est ça.
Bon, je ne dis rien.
Vous verrez quand vous aurez du talent. Bah oui, j'ai pas le trac.
Mais c'est pas parce que vous vous amusez tout simplement.
Oui. Oui,
même si je ne veux pas
voilà,
parler
d'illettantisme. Écoutez, vous me faites finalement un très beau compliment, parce que quand on a le sentiment, enfin quand on donne aux autres le sentiment qu'on s'amuse, ça veut dire qu'on a réussi à transmettre cet esprit de légèreté, de convivialité que nous voulons transmettre autour de Laurence Ferrari. Ben, vous savez, on arrive à 8 heures dans les studios de D8, on prépare, on se voit, on monte l'émission, à 10h50 on est en plateau, on termine à 12h20, ensuite on a le débrief, la préparation de l'émission des lendemains, on a du tournage en immersion, c'est 8 heures de travail par jour pour 1h20 d'émission. C'est un vrai travail à temps complet. J'ai comme ça des copines qui me disent, ah tu t'amuses bien, hein, t'as du temps pour toi. Oui, certes je n'ai pas le niveau de responsabilité d'un ministre de la Santé qui gère 220 milliards d'euros, ça c'est sûr, mais c'est un vrai travail.
Une autre question ?
Mon rêve ultime, le rêve des rêves.
C'est quoi ?
J'aurais tellement aimé être une grande diva d'opéra.
Mais déjà, vous êtes diva. Ça, vous pouvez y aller. Déjà, vous gardez ça.
Oui, mais enfin, alors, j'espère que je suis bonne Castafiore pour autant. Mais oui, ça aurait été mon rêve que d'être une musicienne.
Et vous chantez ?
Oui, je chante un peu, mais enfin...
Alors, vous avez une voix de quoi ?
Ah, j'ai une voix de mezzo, carrément de mezzo.
Vous offrez ça, quoi, par exemple ? Vous chantez quoi, par exemple ?
Oh, je peux chanter du Rossini.
Rosy.
Una voce poco fa, qui nel cor. Ou je peux chanter du Mozart. Comment dire ? Si vuol ballare, signor Contino. Si vuol ballare, signor Contino. Il chitarrino mi suenero, il chitarrino le suenero, sì, le suenero.
Vous êtes venu à l'opéra tard ou pas tard ?
Tard.
C'était un coup de foudre ?
Oui, ça a été un coup de foudre. Dans ma famille, on n'écoutait pas de musique lyrique. Mes parents n'étaient pas assez cultivés pour cela. Ils m'ont évidemment donné une très solide culture musicale, piano, solfège. Mais l'opéra, c'était trop parisien à l'époque. Maintenant, heureusement, il y a des très belles salles partout, des festivals qui permettent à tout le monde qui en a le goût de s'offrir de temps en temps un opéra. Mais oui, c'est un ami à qui d'ailleurs j'ai dédié un de mes livres, qui est mort du sida depuis, qui m'a emmené à Vérone, qui m'a fait découvrir l'opéra.
Et c'était quoi le premier opéra ?
Il y avait Aïda, magnifique. C'est bien de commencer par là.
Des choses connues,
oui. C'est ce que je fais avec les amis que je veux
convaincre, attirer
vers l'opéra. Je les emmène toujours voir un opéra très connu parce qu'ils se disent « L'opéra, c'est compliqué, je connais pas ». Puis en fait, on les emmène voir Rigoletto. Ils ont entendu tous les tubes sur une publicité pour des tampons périodiques, un jambon,
des pâtes,
du lait pour le corps, etc. Ils me disent « Attends, je suis un spécialiste de l'opéra ». Très bien, donc ça. Ensuite, j'essaie de les emmener voir un spectacle qui est dans une mise en scène classique. Quand on voit, par exemple, dans Rigoletto, pour reprendre Rigoletto, le duc de Mantoue violer Gilda à l'arrière d'une vieille bagnole au milieu d'un terrain vague rempli de poubelles, on se dit « Oui, c'est peut-être pas tout à fait ça ».
On va faire une dernière question pour cette séquence.
La gourmandise. La gourmandise, c'est tout. J'aime tout. Je suis une vraie, vraie grande gourmande. J'aime la vie. Ma jeune sœur dit « Tu croques dans la vie comme on croque dans un fruit et le jus du fruit coule le long de ta bouche. » Donc je suis gourmande pour tout. Je suis gourmande pour les amitiés. Je suis gourmande pour la musique. Je suis gourmande d'écouter ce que les gens ont à dire. Oui, comme tout le monde, comme tous ceux qui nous écoutent, j'ai eu ma part de deuil, de frustration. Vous savez, quand on vous annonce la mort de votre père, alors que vous êtes ministre au banc du Parlement, ce qui était extraordinaire, c'est qu'il a fallu tenir. Que l'opposition ne m'a fait grâce d'aucun amendement. Tout le monde le savait. Aucun discours n'a été raccourci. Mes conseillers étaient autour de moi, sidérés de ce que j'affrontais, de ce choc inouï, et qu'il me fallait continuer. Quand je suis sortie, je me suis dit finalement, j'ai eu de la chance qu'on m'annonce ça de cette façon-là, que je puisse aller au bout de moi-même.
Je n'ai pas d'air pour y
Bachelot, qui est l'invité de Briquet de Broc. Il se trouve que comme je suis à Paris chez vous, je n'ai pas emporté ma boîte. C'est pas une boîte de Pandore, mais c'est une petite boîte dans laquelle il y a des cartes. Et il fallait bien trouver une solution. Donc, je vous ai demandé de trouver un livre. Vous allez l'ouvrir n'importe où. Et vous avez choisi l'offrande musicale, puisqu'on est quand même dans l'amour de la musique.
L'offrande musicale d'André Tuboeuf. Oui. Dites bien le nom d'André, qui est un ami très tendre, très cher.
Aux éditions, tiens, Robert Lafont. Voilà. Et vous allez ouvrir à deux reprises, là où vous voulez, et puis vous allez commenter votre choix, qui n'en est pas un, le faux hasard, d'accord ? En fermant les yeux. C'est bien parce que vous jouez le jeu.
Oh,
ça tombe bien ?
Ça tombe bien.
Alors dites-moi.
Parce qu'on tombe sur le Requiem de Giuseppe Verdi. Un moment de musique sacrée absolument inouï. La dernière fois que je l'ai entendu, c'était à Pleyel avec Daniel Barenboim.
Mais on a l'impression que vous avez une mémoire phénoménale parce que vous connaissez tous les opéras par cœur ?
Oh oui, je ne connais pas tous les opéras par cœur, mais...
Mais même les paroles, enfin c'est incroyable quand même.
Oui, peut-être, mais... Oui, mais c'est comme pour certains qui chantent par cœur telle chanson de tel
oui,
ou tel chanteur.
Oui, sauf qu'un opéra, ça peut durer 4 heures, hein, parce que comme si vous
Je ne connais pas par cœur Wagner.
Rassurez-moi
Je ne peux pas vous dire les adieux de Votan qui me font pleurer à chaque fois.
J'allais
quand j'entends la Valkyrie, Lebwohl, Dukun, Serliches Kind, je ne veux pas enfiler évidemment les interminables solides de Wagner, non, bien sûr. Mais dans Verdi, oui, il y a des choses que l'on connaît.
Donc, mémoire quand même faramineuse.
Oui, j'ai une très très bonne mémoire. Ça m'a d'ailleurs beaucoup servi dans ma vie. Et bien entendu, j'aime de la même façon dire des poèmes, parce que les poèmes ou des pièces, c'est une façon d'entendre la musique. On peut lire Racine, mais on peut aussi le dire pour soi. Moi-même, j'ai voulu vous entendre en ce lieu. Je n'écoute plus rien et pour jamais à Dieu. Pour jamais. Ah Seigneur, songez-vous en vous-même combien ce mot terrible est affreux quand on aime. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous, que le jour recommence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. Mais quelle est mon erreur et que de soins perdus, l'ingrat de mon départ, consolé par avance, daignera-t-il compter les jours de mon absence ? Ces jours si longs pour moi lui sembleront trop courts.
C'est une merveille, ça.
Vous voyez que Racine, c'est pas des paroles, c'est de la musique.
Oui, ça m'a même mis les larmes aux yeux. Hein. Vous êtes c'est un bon. Un dernier, chercher une dernière fois entre les pages de ce livre Offrande musicale.
Ah, on est tombé sur Péléas et Mélisande de
une
Claude
belle
Debussy.
Histoire d'amour, quand même aussi. Et alors, je vais un petit peu. Oh, pas du tout vous piéger parce que tout à l'heure, il restait un petit papier et vous avez été très contente de... On parle de Péléas et Mélisande, mais on va passer là-dessus. Très contente de ne pas le tirer, c'était l'amour dans tout ça. Juste un mot, puisqu'on finira là-dessus.
J'étais contente de ne pas le prendre, et je le prends maintenant, vous me le tendez, parce que vous remarquerez, et on rebouclera sur le début de notre entretien... Quand vous dites « vous êtes quelqu'un de spontané », je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'aussi secret dans sa vie privée que moi. Quand on veut bien regarder le personnel politique français, on s'aperçoit que je ne dis rien de ce qui compte de mon intimité, jamais. Pas de photos, il n'y a pas de...
Vous savez très bien vous protéger.
Oui, c'est ça, il y a une protection maximum. La vie politique... C'est une sorte de sac à dos dans lequel il y a beaucoup de gros rochers, dans lequel, excusez la trivialité de l'expression, il y a beaucoup de merde. Alors bien sûr, celui qui porte le sac à dos, le politique qui porte ce sac, il a aussi sa part de gloire, nous en parlions, et d'immense satisfaction. Le problème, c'est que ceux qui vous sont proches, ils n'ont que les gros cailloux et la saleté. Ils souffrent pour vous. Par exemple, avoir sa marionnette dans les guignols. C'est pour certains de mes collègues le parangon de la célébrité. Ils en rêvent, même pour qu'on dise du mal d'eux. Mais pour ceux qui vous aiment, c'est une souffrance indicible. Et donc, j'ai toujours voulu les protéger, ne rien dire. Je ne veux pas les entraîner sur ce chemin-là, parce qu'ils n'auront pas la totalité du paquet.
Eh bien, ça va être le mot de la fin, Roselyne Bachelot.
Merci.
Merci infiniment pour ce moment et puis pour cette heure tout à fait hors langue de bois. Merci infiniment.
Merci à vous.
De Bric et de Broc, c'est fini pour aujourd'hui. Une petite précision tout de même. Vous avez pu entendre un extrait, un très court extrait de l'air de Germont de la Traviata de Verdi. C'était un air, bien sûr, qui avait été choisi par Roselyne Bachelot. La semaine prochaine, c'est Jane Birkin qui sera l'invitée de Bric et de Broc sur France Bleu Brésisel. À samedi.